Bonjour et bienvenue dans ce 25e épisode de Psychogénéalogie et compagnie, le podcast qui vous éclaire sur la psychogénéalogie et bien d'autres choses encore. Dans cet épisode, je vous apporte quelques pistes de réflexion au sujet de l'influence de notre histoire familiale dans nos rencontres amoureuses. Quels sont les ressorts inconscients, intergénérationnels et transgénérationnels, qui nous pousse vers un partenaire plutôt qu'un autre. Je commence par un inévitable petit détour par la psychanalyse et je vous précise d'emblée que je simplifie vraiment car la théorie psychanalytique est très complexe, parfois même franchement incompréhensible, et qu'en plus les différents courants de pensée ne sont pas toujours d'accord entre eux. Donc d'un point de vue psychanalytique, nous choisissons notre partenaire soit en rapport à nous-mêmes, nous l'aimons parce qu'il nous ressemble, soit en référence à nos objets d'amour de l'enfance, en principe nos parents. Un petit rappel sur le complexe d'Œdipe théorisé par Freud pour les garçons, ou complexe d'Électre proposé par Jung pour les filles, qui se joue entre 3 et 5 ans, période durant laquelle les enfants construisent leurs désirs sexuels et amoureux. Dans les grandes lignes, durant cette période, la petite fille qui s'identifie à sa mère est amoureuse de son père. C'est parce que le père signifie que ce n'est pas possible, et au passage, c'est à ce moment-là qu'est posé l'interdit de l'inceste, qu'elle pourra intégrer la différence des générations et se tourner vers d'autres hommes, qui parfois auront certaines ressemblances avec l'image inconsciente qu'elle se fait de son père, à des degrés divers, en fonction de la résolution de son complexe d'Électre. Là où ça se complique, c'est que si l'interdit n'est pas posé assez clairement, ou si le complexe d'Électre n'est pas résolu en raison de dysfonctionnements familiaux, la petite fille peut rester toute sa vie inconsciemment enfermée dans un lien œdipien à son père, ce qui pourra se traduire par le fait de le rechercher inconsciemment dans chacune de ses relations amoureuses, mais bien sûr sans y arriver, et donc sans réussir à s'attacher à un autre homme. Et inversement, bien sûr, pour les garçons. Autre complication possible, si la mère rejette, ignore ou dévalorise son conjoint, et qu'elle reporte toute son affection et son admiration sur son fils, la petite fille peut traverser son complexe d'Électre avec son frère et le rechercher dans tous les hommes de sa vie. À noter qu'il existe aussi un complexe d'Œdipe ou d'Électre inversé, dans lequel la petite fille s'identifie à son père et prend sa mère comme modèle amoureux, et inversement pour les garçons. Pour terminer ce petit détour par la psychanalyse, les ratés dans la résolution des complexes d'Œdipe et d'Électre peuvent se reproduire de génération en génération. Difficile en effet de s'y retrouver en termes de modèle amoureux pour le petit garçon qui constate que la seule femme qui ait une importance aux yeux de son père est sa grand-mère, ou pour la petite fille qui ressent que l'idéal masculin de sa mère est son grand-père, et qui comprend que son père n'a pas sa place d'homme dans le couple de ses parents. Sans rentrer dans les débats concernant les théories freudiennes et la réalité ou l'universalité de l'existence des complexes d'Œdipe et d'Électre, je pense qu'on peut considérer plus globalement que nous fixons dans notre enfance, à travers la relation à nos parents, certains aspects de notre futur modèle amoureux, qui sont eux-mêmes en lien avec le vécu de nos parents, avec leurs propres parents. Autre point de vue, pour les sociologues, le sentiment amoureux est socialement construit en fonction du contexte sociétal, de la culture dans laquelle nous baignons et de notre milieu familial. La rencontre amoureuse est donc aussi conditionnée, en partie, par nos croyances au sujet des hommes ou des femmes, celles que nos parents, nos oncles et tantes, nos grands-parents nous ont transmises plus ou moins consciemment depuis l'enfance. Certaines de ces croyances peuvent être verbalisées au sein de la famille, tandis que d'autres sont perçues et intégrées par l'enfant à travers des comportements ou des dynamiques relationnelles qu'il observe au sein de sa famille. Pour les femmes, ce sont toutes les croyances au sujet de l'homme qui sont agissantes. Celles qui concernent les hommes en général, comme par exemple « on ne peut pas compter sur les hommes sont tous infidèles, les hommes ne s'intéressent qu'au sexe et à la bouffe, ou encore tous des salauds », qui peuvent amener certaines femmes à rejeter inconsciemment les hommes tout en souhaitant être en couple avec un homme. On trouve aussi toutes les croyances de la famille au sujet des hommes considérés comme admissibles dans le clan, comme par exemple « un homme bien, c'est un homme qui a un bon travail », la notion de bon travail étant évidemment très variable en fonction des familles, comme tous les autres critères d'admissibilité d'ailleurs. Dans certaines familles, un homme valable sera un homme qui mange beaucoup et boit de l'alcool. Dans d'autres, un homme bien sera nécessairement sportif ou bricoleur. Toute toutes les croyances des mères au sujet du prince charmant, alimentées par certains contes de fées, enferment leur fille dans une vision idéalisée de l'homme. Pour le psychanalyste transgénérationnel Bruno Clavier, ce syndrome de l'attente du prince charmant est en lien avec l'oppression des femmes dans les générations précédentes et le fait que les mariages n'étaient pas des mariages d'amour, ce qui a généré chez nos ancêtres un fantasme de l'homme idéal. À noter que d'après certaines études, ce syndrome n'aurait pas son équivalent côté masculin, les jeunes hommes n'ayant généralement pas un idéal féminin, mais distinguant en revanche les femmes avec lesquelles ils souhaitent se limiter à la sexualité de celles avec lesquelles ils veulent nouer une relation sentimentale. D'ailleurs, pour les hommes, on trouve également dans les familles toutes sortes de croyances au sujet des femmes. Tout infidèles, où les femmes cherchent des hommes qui ont de l'argent, où les femmes sont superficielles, ou encore, les femmes, une fois que tu leur as fait un gosse, tu ne les intéresses plus. Dans certaines familles, une femme bien pour le clan, c'est une femme qui sait cuisiner, qui ne travaille pas et qui se consacre aux enfants. Dans d'autres, une femme valable, c'est une femme qui s'épanouit dans son travail et qui s'occupe de ses enfants. Etc, etc. Autant de versions que de familles, bien sûr. Ces croyances, qui peuvent être transmises inconsciemment, sont en grande partie liées à l'histoire de la famille et prennent parfois la forme de véritables mots d'ordre de l'inconscient familial. Par exemple, lorsqu'une femme n'a pas pu épouser l'homme qu'elle aime car elle appartenait à une classe sociale inférieure et que le mariage n'a jamais été accepté par la famille de l'homme, le message inconscient qui se transmet de génération en génération peut être « dans cette famille, on n'a pas le droit à l'amour » ou « dans cette famille, on est moins bien que les autres » ou pour le dire autrement, créer des blessures profondes de rejet qui impactent les rencontres amoureuses dans les générations suivantes. Mais à l'inverse, cette blessure peut venir alimenter une haine de classe qui influencera également, à sa manière, le choix des partenaires dans les générations suivantes. En cas de mésalliance, lorsque la belle famille exprime du mépris pour le conjoint ou la conjointe qui ne correspond pas aux attentes de la famille, c'est un profond sentiment d'illégitimité dans la rencontre amoureuse qui peut se transmettre aux générations suivantes. Dans d'autres familles, lorsque le mariage dans les générations précédentes a été source de souffrance, lorsque les femmes mariées ont subi leur mari, lorsqu'elles se sont senties enfermées à la maison avec leurs multiples enfants, c'est un véritable mot d'ordre qui peut circuler dans l'inconscient familial. Ne te marie pas ou ne te lie pas à un homme, et créer des difficultés d'engagement pour les femmes des générations suivantes. Dans les familles où tous les hommes sont morts jeunes depuis plusieurs générations, et où les femmes se sont toujours débrouillées pour tout gérer toutes seules, il n'y a parfois plus de place pour l'homme. Les femmes ont développé des qualités très masculines et en quelque sorte se suffisent à elles-mêmes. Mais ici encore, et c'est valable pour tous les exemples que je cite dans cet épisode, les mêmes causes n'ont pas les mêmes effets. Chaque situation est unique, d'autant que de nombreux autres paramètres rentrent en ligne de compte dans la rencontre amoureuse. En plus de ces croyances plus ou moins conscientes, le roman familial, ce récit romancé de l'histoire de la famille dont je vous ai parlé dans l'épisode sur les transmissions invisibles, peut influencer le choix de vos partenaires et vos attentes par rapport au couple. Que raconte-t-on dans votre famille au sujet des rencontres amoureuses? Par exemple, dans les familles où l'on raconte aux enfants depuis leur plus jeune âge la fabuleuse histoire des grands-parents qui se sont rencontrés à 16 ans et ne se sont plus jamais quittés, et celle des parents qui ont fait de même, il y a de fortes chances que les ados aient de grosses attentes vis-à-vis de leur premier amour. Dans les familles où l'on raconte qu'aucune femme de la famille n'a été heureuse en amour, l'ombre des échecs amoureux des générations précédentes pèse sur les femmes de la lignée, qui peuvent parfois s'engager avec des hommes qui ne leur conviennent pas pour venir inconsciemment confirmer cette croyance. Comme je vous en avais déjà parlé, par loyauté familiale, non seulement nous choisissons des conjoints qui correspondent à notre famille en termes de culture, de milieu social, d'opinion, de valeurs, de métier, de religion, mais nous rejouons aussi parfois les scénarios amoureux des générations précédentes. J'ai ainsi accompagné une femme qui voulait comprendre pourquoi elle ne rencontrait que des hommes infidèles. Elle savait que son père avait été infidèle à sa mère, mais ce qu'elle ne savait pas et qu'elle a découvert en enquêtant sur son histoire familiale, c'est que son grand-père maternel et son arrière-grand-père maternel avaient également été infidèles. De manière complètement inconsciente, ses choix de compagnon lui permettaient de rester loyal aux femmes de sa famille et à la croyance que les hommes sont tous infidèles. De la même manière, il arrive que certaines femmes, par loyauté aux femmes du clan qui rejettent les hommes, choisissent inconsciemment un conjoint inaccessible, déjà marié ou qui ne veut pas s'engager, ce qui leur permet de ne pas ramener un homme dans le clan. La thérapeute familiale Catherine Ducommun-Nagy considère que des personnes victimes de maltraitance physique et ou psychique pendant leur enfance peuvent choisir inconsciemment un conjoint maltraitant physiquement et ou psychiquement. Non seulement parce que c'est le type de relation homme-femme qu'elles ont malheureusement intériorisé, ce qu'on appelle aussi la soumission apprise, source de répétition de scénarios de violence conjugale ou d'emprise de génération en génération, mais aussi par loyauté familiale inconsciente, pour éviter de remettre en question le modèle relationnel qu'elles ont reçu. La loyauté familiale est un moteur puissant dans le choix de nos partenaires, et comme je vous l'ai dit dans l'épisode consacré à ce sujet, lorsque le choix du conjoint ne correspond pas à ce qui est attendu par leur famille, certaines femmes ou certains hommes peuvent saboter inconsciemment leur couple pour rester loyaux à leur famille. Ce peut être le cas, par exemple, lorsque le conjoint choisi n'appartient pas au même milieu social d'origine, ou dans les familles récemment immigrées, lorsque le conjoint n'est pas issu du pays d'origine. La culpabilité d'avoir été déloyale aux attentes de notre famille peut nous emmener dans des conduites d'auto-sabotage. C'est pourquoi, comme le dit la thérapeute familiale Nicole Prieur, il ne suffit pas de trahir, et il faut aussi assumer pleinement sa trahison, entre autres en dépassant la culpabilité qu'elle engendre. Si la loyauté familiale crée une logique de reproduction des modèles amoureux des générations précédentes, il existe aussi des dynamiques de réparation. Il arrive que certaines femmes ou certains hommes choisissent leur conjoint comme pour réparer l'histoire familiale. C'est d'ailleurs souvent dans le choix du premier conjoint que l'empreinte familiale est la plus forte. Cette réparation peut être très visible, par exemple une femme qui se marie avec un homme dont la profession est de soigner une maladie présente dans la famille, ou un homme qui épouse une femme qui porte le même prénom que sa sœur décédée. Mais elle peut être aussi beaucoup plus invisible et venir manifester la réparation d'une blessure vécue par les générations précédentes. Par exemple, dans les familles dans lesquelles il y a des mémoires de migration, il n'est pas rare que sans le savoir, les petits-enfants ou arrière-petits-enfants se mettent en couple avec une personne de la même nationalité que leurs lointains ancêtres. Autre exemple plutôt frappant, j'ai accompagné un homme qui venait de se séparer de sa compagne car il ne ressentait pas d'amour pour elle. Il voulait comprendre pourquoi il avait choisi une femme avec laquelle il avait dès le départ assez peu d'affinités. En se penchant sur son histoire familiale, nous avons découvert qu'elle portait exactement le même nom de famille et le même prénom que son arrière-grand-mère qui avait quitté subitement son arrière-grand-père, le laissant seul inconsolable avec ses deux enfants. Comme s'il fallait ramener cette femme dans la famille pour réparer la blessure émotionnelle du grand-père. L'explication de ce phénomène est liée au travail du fantôme dans l'inconscient dont je vous ai parlé dans les épisodes précédents. C'est la trace de l'émotion de l'autre en moi qui agit dans mes rencontres amoureuses. Dans son livre « Les fantômes familiaux », Bruno Clavier évoque par exemple l'histoire d'une jeune femme qui accumule les échecs amoureux auprès d'hommes qui se nomment Pierre ou qui sont d'origine espagnole, et qui finit par découvrir que sa grand-mère a été secrètement amoureuse de son professeur d'espagnol nommé Pedro. Ce qui lui fait dire que des modèles d'amoureux impossibles peuvent se transmettre de génération en génération, les descendants héritant du fantôme de Prince Charmant des générations précédentes. Mais le travail du fantôme peut aussi avoir d'autres conséquences. Quand les histoires d'amour ont été contrariées depuis plusieurs générations, soit par des interdits de se marier avec l'élu de son cœur pour des raisons de classe sociale, de religion ou parfois même d'apparence physique, soit par la mort de l'être aimé juste avant le mariage, des peurs inexpliquées peuvent se réveiller dans les générations suivantes au moment de la rencontre amoureuse. Peurs qui peuvent se traduire pour certains ou certaines par un auto-sabotage. Je l'abandonne avant qu'il ne m'abandonne. Enfin, les psychanalystes Nicolas Abraham et Maria Torok avaient relevé qu'un couple, c'est toujours la mise en commun des fantômes familiaux. Ces fantômes peuvent être identiques ou complémentaires. Quand il existe les mêmes blessures dans l'histoire familiale des deux membres du couple, par exemple lorsqu'il y a des deux côtés le décès d'un frère ou d'une sœur, ou des arrière-grands-parents morts gazés en 14-18, c'est comme s'il y avait rencontre de deux inconscients familiaux sur la même blessure. Dans d'autres situations, les histoires familiales sont complémentaires, c'est-à-dire que les souffrances d'une histoire familiale sont compensées par l'autre histoire, comme par exemple une femme qui appartient à une famille où les hommes sont absents, morts jeunes sur plusieurs générations, qui rencontre un homme dans la famille duquel les hommes sont très présents sur plusieurs générations, mais où les mères et épouses sont décédées jeunes. C'est comme si les forces et faiblesses de chacune des histoires familiales venaient se compenser. Alors y a-t-il une meilleure configuration ? Pas du tout. Si l'histoire familiale peut influencer les rencontres amoureuses, elle ne prédétermine pas le destin du couple. En revanche, si des difficultés dans la vie du couple se présentent, il est intéressant d'aller explorer l'histoire familiale de chacun pour comprendre les forces qui peuvent être agissantes inconsciemment. Mais ça, je vous en parlerai dans le prochain épisode. Si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, si vous accumulez les échecs amoureux, si vous tombez toujours sur le même type d'homme ou de femme, si vous avez l'impression que votre partenaire plaît plus à votre famille qu'à vous, si vous ressentez des états émotionnels incompréhensibles dès que vous entrez dans une relation sérieuse, si vous avez pensé quitter votre futur mari la veille du mariage, bref, si l'amour c'est compliqué, la psychogénéalogie ou analyse transgénérationnelle peut vous permettre d'y voir plus clair. Identifiez vos loyautés familiales et la reproduction des scénarios des générations précédentes. Repérez les choix de partenaires qui viennent ou qui sont venus réparer l'histoire familiale. Débusquez les fantômes qui vous attirent vers le prince charmant d'une ancêtre. En bref, mettre à jour votre héritage transgénérationnel peut vous permettre d'éclairer les forces souterraines qui diminuent votre libre arbitre et peuvent vous emmener vers des personnes qui ne vous conviennent pas. Voilà pour ces quelques pistes de réflexion sur les ressorts transgénérationnels de nos rencontres amoureuses. Comme d'habitude, je mettrai en description de ce podcast l'ensemble des ressources sur lesquelles je me suis appuyée. Si vous voulez en savoir plus sur l'accompagnement que je propose en cabinet ou à distance, je vous propose de consulter mon site internet sophieduverne.com. À bientôt! Si vous avez aimé ce podcast, dites-le avec des étoiles et abonnez-vous pour le recevoir dès sa sortie.